Alors, on a réalisé cette semaine, vendredi, en meeting, que c'est ça, les 100. On était là pas mal aux 100 premiers jours de la présidence de Joe Biden. Et ça nous a fait réaliser qu'on n'avait à peu près pas parlé de Joe Biden depuis 100 jours.
Je pense que la dernière fois qu'on a parlé de politique américaine dans cette émission-ci, c'était pour regarder les recours de Donald Trump pour être en mesure de rester au pouvoir.
Ouais, c'est ça. C'est genre au lendemain de l'annonce des États là, qui faisaient pencher la balance pour Joe Biden. Ouais. Dans ces eaux-là, ça veut dire, ça fait pas 100 jours, ça en fait 95.
Ouais, à peu près.
Mais force est de constater que Donald Trump faisait jaser, Joe Biden un peu moins, mais ça demeure le président des États-Unis. Ça demeure notre voisin et notre partenaire commercial principal. Donc, petit cours sur ce qui se passe aux États-Unis présentement avec le prof Éric Arsenault, prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière. Bonjour, prof Arsenault.
Bonjour, messieurs. Content de vous retrouver.
Ben, pareillement, on est content de vous parler, prof Arsenault, parce que vous êtes un peu nos longues vues vers les États-Unis. Vous surveillez un peu ça pour nous, parce que, comme je disais d'emblée, depuis que Donald Trump est plus au pouvoir, ben, ça fait moins la une, hein, ce qui se passe aux États-Unis. Ça fait moins la une de nos quotidiens ici à Québec. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui s'est passé de plus important depuis l'élection de Joe Biden aux États-Unis?
Ben, en fait, deux choses. Puis je pense que la première des choses, tu viens de le souligner, Paul Raphaël, c'est vrai, on a l'impression que les États-Unis et la présidence sont beaucoup moins dans notre radar médiatique qu'avec Donald Trump. Et ça, je pense, c'est une différence marquante avec Donald Trump. C'est qu'on n'est plus dans une espèce de télé-réalité à rebondissement perpétuel. La boîte à surprises de Donald Trump qui cultivait les controverses, les rebondissements et les coups de gueule. Là, on a affaire avec Joe Biden, un président qui, à la limite, est quasiment plate. Alors, on entend beaucoup moins parler. Il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de fuite de trucs rocambolesques dans les médias, de déclarations à l'emporte-pièce. Je pense que première différence notable avec Donald Trump, c'est ça. Puis la deuxième des choses, je pense, qu'on doit noter avec le début de la présidence de Joe Biden, d'abord, c'est qu'il a fait mentir à peu près tous les experts, tous les pronostics, et en particulier ses adversaires. Rappelez-vous, Donald Trump l'avait surnommé Joe l'endormi, Sleepy Joe, en disant que ce gars-là était vieux, il commençait à avoir des facultés qui déclinaient, il allait être, dans le fond, l'otage des tendances les plus progressistes, extrémistes, d'extrême-gauche de son parti, et on se rend compte, c'est tout le contraire. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, il est hyper actif, il signe une montagne de décrets, donne suite à ses engagements, et son taux de satisfaction à 59% se compare avantageusement à celui de Barack Obama, et même supérieur à celui de Clinton, et largement supérieur à celui de Trump. Bref, dans un certain sens, c'est comme si Joe Biden surprenait un peu tout le monde.
Et puis, vous parliez de la montagne de décrets qu'il a pu signer depuis son élection. Quelles sont les principales lois qui ont été décrétées, ou du moins les principaux chantiers de Joe Biden depuis son élection?
Alors, le premier chantier le plus important, c'était évidemment la lutte à la COVID. Alors, il a remis de l'ordre dans la maison. Donald Trump, c'était l'improvisation puis la confrontation. Alors, Joe Biden avait promis en arrivant au pouvoir que dans les 100 premiers jours de sa présidence, il y aurait 100 millions d'Américains vaccinés. Ça n'a pris que 60 jours pour atteindre cet objectif-là. On est actuellement à 220 millions. Puis vous regardez comment ça se passe aux États-Unis, la vaccination, ça va rondement. On a commencé même à déconfiner dans certains coins. Alors ça, je pense que c'est probablement l'une de ses plus grandes réalités. L'autre truc, et c'est un peu en lien avec la COVID, c'est qu'il avait promis, dans le fond, de lancer des grands chantiers, des grands programmes de relance de l'économie, de venir en aide notamment aux travailleurs, aux familles qui avaient été durement affectées par la pandémie, et là-dessus, mission accomplie. Et là, c'est une pluie de milliards. Certains disent c'est une orgie de dépenses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Certains craignent d'ailleurs qu'on s'endette aux États-Unis pour des générations et des générations. Alors, des plans d'aide extrêmement généreux, par exemple, 1900 milliards de dollars pour réduire l'impact de la pandémie sur les Américains, donc les ménages à faible revenu, les petites familles, les travailleurs. Encore tout récemment, un nouveau programme d'infrastructure, on parle de 2000 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine, les infrastructures de transport, l'électrification, et encore la semaine dernière, un autre plan, mais cette fois-ci pour les familles, et là aussi, là, on parle de centaines de milliards de dollars. Alors, par exemple, pour offrir des services de garde aux familles, lutter contre la pauvreté, logement social, santé, éducation, tu vois, ça, c'est un gros thème pour Joe Biden. Il veut, par exemple, allonger la scolarité qui va être gratuite pour les Américains, offrir aux Américains des congés maladie, des congés parentaux. Bref, Ici au Canada, là, rien de vraiment révolutionnaire. C'est des choses avec lesquelles on est habitué. Mais aux États-Unis, dans la normalité des choses aux États-Unis, où l'État est peu interventionniste, Joe Biden est en train carrément de réécrire le livre de match.
Avec aussi des proportions qu'on ne connaît pas. Par contre, au Canada, vous me parlez de milliers de milliards de dollars. Bon, on dirait que mon cerveau n'est pas capable d'assimiler cette information-là.
Mais c'est vrai, tu as raison de le souligner. D'ailleurs, uniquement le plan d'aide, le 1900 milliards pour réduire les impacts de la pandémie sur les Américains, c'est supérieur au total du PIB canadien. Ça vous donne une petite idée, là. On est dans des chiffres qui se comparent même pas avec ce qu'on peut connaître ici chez nous.
Vous parliez de la vaccination qui va rondement aux États-Unis. Je comprends que c'est surtout le vaccin Johnson & Johnson que les Américains ont reçu, puisque c'est un vaccin justement qui est fabriqué aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est un vaccin qui a soulevé des doutes là, au niveau de son efficacité ou des impacts sur la santé. Mais si on connaissait Joe Biden pour ses tendances quand même possiblement un peu protectionnistes, du vaccin Johnson & Johnson, est-ce qu'il s'en envoie ailleurs dans le monde ou les Américains les ont tous gardés pour eux?
Ben, dans un premier temps, et ça, tu vois, c'est une constante. Parce qu'on a beau dire Joe Biden puis Donald Trump, c'est le jour et la nuit, mais sur certains aspects, peut-être pas. Par exemple, en matière de protectionnisme, et on va le voir, Joe Biden insiste beaucoup sur le Buy America. Alors, par exemple, pour ses programmes d'infrastructure, etc., il veut favoriser les entreprises américaines, les emplois, les jobs aux États-Unis. Et on l'a vu également avec la vaccination. Alors, la ligne de Donald Trump, c'est-à-dire les vaccins qu'on produit, on les garde pour nous, on s'occupe de nous, America first. Et avec Joe Biden, dans un certain sens, le mantra a pas nécessairement beaucoup, beaucoup changé. On a vu au cours des dernières semaines, à un moment donné, Joe Biden avait laissé entendre que le vaccin AstraZeneca, qui n'est pas encore homologué aux États-Unis, même si on le produit aux États-Unis, alors il avait laissé entendre que on pourrait envoyer quelques millions de doses du côté du Canada. Alors, ça serait la même chose avec le Johnson & Johnson également et tout ça. Et on se rend compte, depuis quelques jours, le vaccin Pfizer, qu'on utilise beaucoup au Canada et qui nous arrivait de Belgique et d'Europe, dorénavant, va nous arriver des usines américaines. Alors, il y a une dynamique qui est en train de changer et probablement que du fait que la vaccination va très, très bien aux États-Unis, même qu'on sent là, qu'il commence à y avoir un essoufflement, il y a moins de gens qui sont intéressés à se faire vacciner, alors ça devient pour les Américains peut-être justement l'opportunité de se montrer un peu plus généreux qu'ils l'étaient depuis le début de la pandémie en envoyant des vaccins ultérieurs.
Est-ce que c'est aussi gage de la relation entre les États-Unis et le Canada qui était quand même tendu sous l'ère Donald Trump depuis l'élection de Joe Biden, ça se passe comment? Surtout sur le plan commercial, je devrais dire là.
Ça se passe définitivement beaucoup mieux parce que, puis il n'y a pas besoin de revenir longtemps dans le temps, Paul Raphaël, pour se rendre compte à quel point les relations étaient devenues acrimonieuses entre le gouvernement Trudeau et l'administration Trump. Alors, il y avait eu la renégociation de l'ALENA, il y avait eu, rappelez-vous, le coup de gueule de Trump lors du sommet du G7 à Charlevoix. Puis bref, le courant passait pas entre les deux. C'est définitivement beaucoup plus cordial depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. D'ailleurs, il y a eu une première rencontre, ça a été évidemment virtuel, mais il y a eu une première rencontre. Joe Biden a renoué avec la tradition, voulant que la première rencontre qu'il a avec un dirigeant étranger, c'est avec le premier ministre canadien. Mais en bout de ligne, Joe Biden reste quand même, comme d'ailleurs le sont les démocrates, soit dit en passant, mais des protectionnistes dans l'âme. C'est-à-dire que, tu sais, les libre-échange et tout ça, Biden y croit, là, il n'y a pas de doute avec ça, mais on est effectivement un petit peu plus réservé. Alors, il y a fort à parier que ça va rester dans le décor pour un petit bout de temps. Mais ce qu'il faut remarquer de Joe Biden, c'est qu'il est en train, là, carrément, de reconstruire les ponts qui avaient été plus ou moins détruits ou endommagés avec Donald Trump, avec ses alliés. Alors, avec l'OTAN, avec le G7, même chose, Biden prend ses distances des régimes autoritaires avec qui Donald Trump fricotait peut-être un peu trop, la Russie notamment, l'Arabie Saoudite entre autres, pour essayer justement de refaire les ponts avec les alliés traditionnels des États-Unis, et le Canada en fait partie bien sûr.
Ben merci professeur Sonneau pour le cours de ce matin, c'est fort intéressant.
Mais c'est toujours un plaisir. Bye-bye, à la prochaine.
OK, bye, bonne journée. Éric Arsenault est prof d'actualité internationale au Cégep de Jonquière. Je dois dire que ça faisait quand même du bien d'avoir pris un petit break de politique américaine à un moment de... Ben, c'est sûr qu'avec la COVID, là, il y a rien de tout ça à parler, maudite affaire, là.
Mais là, c'est drôle parce que c'était un cours de politique américaine. Avant, on parlait pas vraiment de politique américaine. On parlait juste de Donald Trump.
On commentait des déclarations.
On critiquait, on chroniquait, on faisait des opinions sur Trump, pas sur les États-Unis. Là, ce qu'on entend parler, c'est « Ah ouais, mais là, décision des États-Unis, ça va avoir un impact sur tel truc au Canada. » Avant ça, là, Sérieux, c'était pas mal juste de rire de Donald, là.
Ben, ça aura au moins servi à ça, à s'intéresser à la politique américaine.
Oh, tout à fait.
Puis comment ça marche. Parce que le système politique américain, là, c'est très, très, très différent du nôtre.
J'ai appris ce qui était un décret, moi, sous Donald Trump.
Ah. Oui.
J'ai appris comment ça se passait.